À voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Gérard Mordilla. Ce soir, filmer et écrire.
Bonjour Gérard Mordilla.
Bonjour.
Alors, nous avons parlé dans les deux premières émissions, lundi et mardi, de votre enfance, lundi, celle d'un rebelle, en tout cas d'un homme ancré dans la classe ouvrière, comme vous le dites souvent, et puis de la naissance de votre vocation de cinéaste, hier, comment vous êtes parvenu depuis la fréquentation de la Cinémathèque jusqu'à votre premier film, L'eau pays, et de votre engagement ensuite dans le travail de documentariste, dont nous avons parlé en particulier avec Artaud et surtout les grandes séries qui ont marqué les téléspectateurs, Corpus Christi, l'origine du christianisme, l'Apocalypse, Jésus et Islam. Il doit y avoir déjà une quarantaine d'épisodes, au moins.
Oui, il y a ça, oui, on a 42 heures.
42 heures sur les écritures et sur les liens aussi avec l'islam. C'est vraiment une œuvre considérable que vous avez laissée là. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous abordions, Gérard Mordilla, surtout votre œuvre de fiction, qui est inséparable d'ailleurs de l'écriture de vos romans, ou presque, pas toujours, mais enfin, en tout cas, ça coïncide souvent, parce que certaines des œuvres que vous avez écrites ont été transformées en fiction, d'autres non, et vous avez fait appel parfois aussi à des auteurs étrangers pour à votre œuvre, pour faire des scénarios à partir desquels vous produisez des films. Moi, je voudrais peut-être qu'on aille tout de suite à l'essentiel, là, pour commencer. Une de vos œuvres de fiction les plus importantes, Les vivants et les morts. Parce que Les vivants et les morts, vous en avez fait d'autres, on en parlera après, mais là, ça a été aussi un travail considérable, quoi. C'est 8 épisodes pour France Télévisions, en 2010, à partir de votre roman éponyme.
Les vivants et les morts, ça a été une grande histoire parce que quand j'ai écrit le roman, je n'ai pas pensé un seul instant à en faire un film. Et c'est un producteur, Jérôme Minet, qui m'a proposé de le faire pour la télévision. Et en même temps, j'avais une proposition par Vera Belmont de le faire pour le cinéma. J'ai choisi la télévision parce que, là aussi, fidèle à Rossellini, je pense pas qu'il y ait un genre noble, le cinéma, et un genre vulgaire, la télévision. Et je pense que la télévision était pour moi le vecteur le plus sûr pour toucher le public auquel je voulais m'adresser.
C'est-à-dire ?
Le public populaire le plus large possible. La télévision, c'est la culture populaire. Et moi, je suis tout à fait admiratif de ce que l'on pourrait faire à la télévision.
Mais ça vous a pas empêché de faire beaucoup d'œuvres de cinéma.
Oui, j'ai fait aussi du cinéma. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas un distinguo, une hiérarchie. Rappelez-vous, Rossellini tourne par et pour la télévision la prise du pouvoir par Louis XIV. Quel cinéaste ne voudrait pas avoir tourné cela ? Qu'importe au fond la production, qu'importe le vecteur de diffusion, ce qui importe, ce sont les œuvres. Et pour moi, faire Les vivants et les morts, le faire pour la télévision et par la télévision, c'était une chance inespérée. Alors,
c'est pas parce que vous aviez plus de temps aussi ?
Oui, mais c'était même pas... Oui, bien sûr, ce qui était important, c'est que j'allais pouvoir faire toutes les strates, les unes au-dessus des autres, comme des couches très fines qui s'additionnent. Au cinéma, j'aurais été obligé de ramener l'histoire de façon contractée sur l'histoire principale entre Dallas et Rudy, qui sont les deux protagonistes de ce récit. Mais la télévision me permettait justement de faire exister une multitude, et ça, c'était important à mes yeux. Et ça a pu se faire. Jérôme Minet était trop optimiste. Il a cru que ça se ferait sans hésiter. Ça ne s'est pas fait sans hésiter. Et le malheur a fait même qu'il décède avant même que l'on puisse tourner le film. Et c'est ensuite Denis Fred qui a repris la production. Denis Fred qui était le producteur de toutes mes séries documentaires et de mes autres films.
Rappelons quand même en quelques mots Les vivants et les morts. C'est un gros roman que vous avez écrit, qui se passe à Rossel, dans le Nord, ville qui vit essentiellement grâce à une usine, la COS, c'est-à-dire Plasticos, et cette usine connaît des difficultés. Et il y a là tout un univers de personnages, une cinquantaine de personnages, qui vont vivre la lutte sociale que représente la fermeture de la Cosse. Il se passe entre eux, entre Rudy, qui est joué par Robinson Stévenin, Dallas, qui est joué par Marie Denardo, des acteurs auxquels vous avez souvent fait appel d'ailleurs. Ce sont les principaux personnages, mais il y en a beaucoup d'autres.
Oui, on voit Patrick Mille, François Morel, Jacques Pater, beaucoup d'acteurs et d'actrices.
Voilà. Et donc c'est une énorme entreprise que d'arriver à faire vivre tout cet univers autour de la fermeture d'une usine.
Il fallait montrer que la fermeture de cette usine dans cette petite ville est une telle déflagration que tout se joue à la fois à l'intérieur des couples, des familles, des syndicats, de la municipalité, du département, de la région, jusqu'au niveau national, quand une représentante du ministère du Travail descend là. Il fallait voir cette explosion qui détruit tout sur son passage. Et tout se jouait dans l'intimité entre Dallas et Rudy, disons de façon microscopique et de façon macroscopique dans l'ensemble de la société. Donc c'était un projet qui me touchait beaucoup dans cette idée, là encore une fois, de ne pas se réduire simplement à l'opposition entre deux forces antagonistes qu'auraient été d'un côté, disons, le patronat et de l'autre côté, la classe ouvrière. Non, non, tout se jouait de façon plus subtile, plus délicate et surtout dans l'intimité des êtres.
Oui, d'ailleurs, dans tous vos films, il y a des histoires d'amour, beaucoup de sexe, ils se tapent dessus, ils se détestent, ils s'aiment, ils s'adorent, enfin bref.
Bah, c'est la vie, non?
Oui, c'est la vie.
Moi, je fais toujours très attention.
Mais dans un contexte social, quand même, très...
Oui. D'ailleurs, ça m'a amusé de voir que certains critiques s'étonnaient, d'une part, que les ouvriers que je mettais en scène parlent, qu'ils aient des choses à dire, et d'autre part, qu'ils aient une vie sexuelle. Je me disais, c'est extraordinaire, on est revenu à l'époque de Jeannette Vermeersch, où on pensait que les ouvriers devaient avoir un accouplement par an pour se reproduire, et c'est tout. Non, c'est ridicule. Mais c'est toujours ce point de vue bourgeois, cette lecture, sur le monde du travail, qui serait un monde sans culture, sans intelligence, sans passé, sans histoire, etc., et sans parole. Bah, moi qui ai grandi dans ce monde-là, je vous assure que c'est un monde de culture, de savoir, d'intelligence, ne serait-ce que l'intelligence professionnelle, qui n'est pas inférieure à l'intelligence universitaire, mais qu'il y a aussi des histoires de passion et que les passions qui se jouent dans ce monde-là ne sont pas inférieures aux passions qui se jouent dans les pièces de Shakespeare. C'est la nature humaine, tout simplement, et c'est ça qui est important. Mais il y a toujours, et je crois que c'est une caractéristique française, ce jugement de valeur, ce qui est de l'ordre de la culture.
Vous croyez que c'est toujours comme ça?
Oui, je le crois, oui, très profondément. Vous savez, très souvent, on m'a dit à propos de mes livres et à propos de mes films, vous faites des films sociaux, vous écrivez des livres sociaux. J'ai toujours la même réponse. J'ai dit, bah, écoutez, j'accepte cette dénomination. Si vous précisez à feu Jean d'Ormesson qu'il écrivait des romans bourgeois et que Michel Houellebecq écrit des romans petits bourgeois. Si chacun doit être catégorisé, alors allons-y. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi. J'ai pas l'impression d'écrire ça. Simplement, ceux que je mets en scène, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dans le monde. Et c'est vrai que, heureusement pour nous, par exemple en France, il y a encore une majorité de Français qui sont des salariés. Et ces salariés-là, eh bien, ils portent en eux une histoire. Et c'est cette histoire-là qui, moi, me touche et me concerne.
Oui, enfin là, beaucoup de ce que vous avez fait, d'ailleurs, reste dans ce contexte. Beaucoup de vos livres, beaucoup de vos films. Mais Les Vivants et les Morts, enfin, qui était un roman dont on a beaucoup parlé, qui a eu le prix RTL, d'ailleurs. Donc, je le dis à dessein, parce que c'est un prix plutôt populaire, le public.
Absolument.
RTL, et pas celui d'une revue spécialisée. Hein, donc, ça a été très apprécié. Le film a beaucoup de succès aussi.
Et il continue d'être montré dans des projections où, par exemple, je me souviens, à Bobigny ou à Martigues, on a passé tout le dimanche à montrer les 8 épisodes comme un seul et même film. Et évidemment, la salle était pleine.
Gérard Mandilla, après le succès des Vivants et des Morts, vous n'avez pas eu envie ou la possibilité de faire d'autres séries?
J'avais très envie de faire d'autres séries, ça n'a pas été possible au niveau de la production, de des investisseurs institutionnels, des chaînes de télévision. Je crois que ça fait toujours un peu peur, et ça fait toujours peur en France, de faire des films, et encore plus des séries qui abordent les questions dites sociales. Et c'est une chose que je regrette. J'ai déjà eu une expérience de ce type un peu malheureuse. J'avais tourné un film sur un inspecteur du travail, Simon oui. Lejuste, qui avait eu aussi du succès et que la chaîne a arrêté tout de suite par peur de soudain montrer des patrons voyous tous les épisodes. Je ne pouvais pas faire un film sur les inspecteurs du travail pour monter que des bienfaiteurs de l'humanité.
Oui, effectivement. Mais alors, vous avez fait quand même aussi beaucoup d'autres films, parce qu'on doit parler de vos autres œuvres, assez variées d'ailleurs. Si je prends la liste que j'ai sous les yeux, Série Noire en 1985, Fucking Fernand en 1987, tantôt pour le cinéma, c'était le cas de ce dernier, Paddy en 99, La Pointe Sèche de la Ville, L'Île Atlantique, Simon Lejuste. Enfin, il y a eu une période dans laquelle là, vous êtes 10 ans. Vous avez enchaîné fois des films, des fictions, des documentaires aussi. On en a parlé hier, mais comment vous faites? C'est-à-dire que il y a des auteurs qui vous inspirent ou c'est un peu le hasard. L'apprentissage de la ville, c'est Luc Dietrich.
Oui, l'apprentissage de la ville. Nous avions avec Pierre Chevalier, qui était le responsable des fictions à Arte, fait ensemble en compagnie d'Antonin Artaud. Et Pierre m'avait dit. Qu'est-ce que tu aimerais faire? J'avais dit, j'aimerais faire L'apprentissage de la ville, qui est un livre que j'aime beaucoup, qui a beaucoup compté pour moi, et qui me semblait porter justement une puissance cinématographique qui était à explorer. Et donc, voilà, ça s'est fait dans ce rapport de relation amicale entre Pierre Chevalier et moi. Pierre Chevalier était tout à fait extraordinaire parce que nous avions convenu de faire un projet de 3 films ensemble. Et le 3e, il m'a donné son accord sous une forme inoubliable. Nous dînions ensemble, il m'a donné une enveloppe bleue. Et dans cette enveloppe bleue, il n'y avait rien qu'un peu de sable. Et j'ai compris que je pourrais tourner L'Île Atlantique d'après Tony Duvert.
C'est joli.
C'était une très belle façon de faire les choses. Et donc, là, ce qui était bien avec l'apprentissage de la ville, c'était l'idée de tourner ça avec une petite caméra, avec des moyens volontairement réduits, et de retrouver finalement ce qui est quelque chose de très fort dans le livre de Dietrich, c'est une sorte d'immédiateté. L'apprentissage de la ville, il y a 2 livres de Luc Dietrich, Le bonheur des tristes et puis L'apprentissage. Le bonheur des tristes a été relu et corrigé par Lanza del Vasto. J'ai envie de dire, on a serré les boulons. C'est un livre magnifique, mais vraiment d'une raideur très forte. Enfin, on a vraiment tout corrigé. Dans L'apprentissage, il n'y a pas eu Lanza del Vasto. Il y a des passages formidables, il y a des passages tout à fait affligeants, il y a des hauts et des bas, mais il y a quelque chose qui nous fait entendre la voix de Luc Dietrich de façon absolument extraordinaire. Eh bien, de tourner avec une petite caméra, de tourner avec des moyens volontairement « pauvres », entre guillemets, eh bien, ça permettait de le retrouver. Et ça, je le dois entièrement à Pierre Chevalier. Je veux dire, c'était son idée aussi, où il y avait là une parfaite adéquation entre la forme cinématographique et puis cette recherche de réinvention de quelque chose qui tenait à la littérature.
Et L'Île Atlantique?
Ah bah L'Île Atlantique, ça c'est un peu une chose où j'ai une sorte de regret. Parce que au départ, L'Île Atlantique devait être en 6 épisodes. Parce que L'Île Atlantique raconte des histoires de famille de Tony Duvert. C'est à mon avis le chef-d'œuvre de Tony Duvert, dont on publierait plus une ligne aujourd'hui à cause des histoires pédophiliques, etc. Mais chez lui, c'est une chose fantasmée. Ça n'a rien à voir avec une pratique quelconque. Et c'est un très grand écrivain. Et donc, il y avait toutes ces familles. Et l'idée était de faire 6 épisodes jusqu'au jour où, justement, Pierre Chevalier m'a prévenu que on n'y arriverait pas, que les budgets d'Arte étant ce qu'ils étaient, 6 épisodes, ça mangeait tout le budget pour la fiction. Et donc, il m'a demandé d'en faire 1h30. Et je l'ai ramené à 1h30 et je ne me suis pas rendu compte d'une chose, c'est que dans L'Île Atlantique, il y a des éléments extrêmement dramatiques et des éléments qui sont dramatiques aussi, mais sous le mode de la comédie. Et j'ai gardé quatre ou cinq familles. Je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû en garder qu'une seule et ne faire que ça. Alors, il y a des moments dans ce film que je trouve tout à fait étonnants et puis des choses que j'ai trouvées plus faibles et qui sont pour moi un peu comme un regret. Voilà, mais en même temps, ça a permis peut-être de faire vivre encore un peu plus longtemps l'œuvre de Tony Duvert.
Et il y a d'autres films comme Billy the Kick.
Billy the Kick, au départ, c'était une idée de Pierre Grimblat dans la série Série Noire qu'il faisait pour...
Ça, c'est un des premiers. Hein,
oui, j'ai fait ça après Vive la Sociale.
Et, oui, après Vive la Sociale, mais qui a beaucoup compté quand même.
Billy, ah bah oui, parce que formellement, c'est quelque chose... Je vous parle d'un temps qui n'existe plus. Billy the Kick... J'écris le scénario, Pierre Grimblat, qui était le producteur, le lit, on devait faire ça a priori pour la télévision, il est si content du scénario, il me dit « mais comment, c'est dommage de pas le faire pour le cinéma ». Bah, je dis « essayons, appelons René Clétman chez Hachette Première ». On téléphone à René Clétman, trois jours après, le film était en préparation. Je veux dire, il y avait une capacité de décision et d'enthousiasme
rapide, à partir de quelque chose,
et le texte de Vautrin était magnifique, et voilà.
Parmi tous ceux que j'ai cités là, ou d'autres peut-être que j'ai oubliés, évidemment il y a Vive la Sociale qui a été un moment important, mais est-ce qu'il y en a un que vous préférez, pour lequel vous avez une attention particulière, et est-ce qu'il y a un regret de ne pas avoir pu faire quelque chose qui vous tenait à cœur?
Celui pour qui j'aurais une affection particulière, c'est Paddy, qui est l'adaptation d'un roman d'Henri Thomas qui s'appelle John Perkins. J'avais connu Henri Thomas à l'occasion du tournage du documentaire « La véritable histoire d'Artaud le Momo », puisque Henri Thomas avait été un ami d'Antonin Artaud. Et j'étais un lecteur déjà d'Henri Thomas. Et Jérôme Prieur m'a offert un bel exemplaire de John Perkins en me disant « Tu devrais tourner ça maintenant ». Et j'en avais parlé à Henri Thomas, qui avait d'ailleurs des idées sur le casting et tout, assez amusantes. Il était hospitalisé, il n'en sortirait pas. Et là, il voulait que je prenne son infirmière pour faire le rôle principal. Mais Paddy, c'est un film, c'est un peu le vaisseau fantôme de ma cinématographie. C'est-à-dire que...
Je m'en souviens bien, avec Julie Gayet.
Oui, ça a été un grand échec public. Il y a peu de gens qui l'ont vu. Et je suis toujours stupéfait de voir que parmi le peu de gens qui l'ont vu, ceux qui l'ont vu ne l'ont jamais oublié. Parce que c'est un film qui repose sur un choix scénaristique, pour le coup, très audacieux, voire très très risqué. Vous savez, la plupart des films, enfin la majorité des films, reposent sur la cause à effet. Une scène ouvre la porte à la scène suivante, l'explique et ouvre celle de la suivante. Bon. Avec Jérôme Prieur, avec qui j'ai écrit le scénario, nous avions décidé de nous intéresser qu'aux effets et d'enlever les causes. Parce que c'était une histoire d'amour à trois, dont le troisième protagoniste était mort. Cette absence-là devait être sensible. Or, pour la rendre sensible, il fallait qu'il y ait une part d'incertitude dans chacune des scènes, qu'il n'y ait pas d'explication, qu'il y ait ce mystère... qui est si bien exprimé par la philosophie arabe, qui dit que le passé, c'est ce qu'on a devant soi, puisqu'on peut le voir, et que le futur, on l'a derrière soi, parce qu'il peut vous surprendre à chaque instant. Eh bien, Paddy, c'est ça. C'est une, sur le plan scénaristique, ça ne s'intéresse qu'à ce côté surprenant de la vie qui fait que vous marchez dans la rue et que quelqu'un sort d'une porte cochère et vous met un coup de marteau sur la tête. Ça fonctionne comme ça. Et plastiquement, je voulais faire une sorte de tragédie au soleil. J'admire beaucoup l'œuvre peinte de Patrice Jorda. Eh bien, Patrice Jorda, dans les paysages qu'il fait, exprime ça. C'est toujours des paysages qui, au fond, sont terriblement tragiques, mais toujours sous une grande lumière, comme on imagine la lumière de la Grèce à l'époque héroïque. Il y avait ça dans Paddy, et c'est un film très cher à mon cœur de ce point de vue-là.
Gérard Mandilla, on voit apparaître dans tout ça aussi un autre univers, il y a les acteurs.
Je me garderai bien de faire quelques théories que ce soit sur le cinéma, mais en tout cas, je veux exprimer ma conviction profonde que si on n'a pas les acteurs dans un film, il n'y a pas de film. On peut faire toutes les acrobaties que l'on veut à la caméra. Ce qui compte, ce sont les acteurs. Et moi, je prends un très grand soin et beaucoup de temps. Je n'utilise jamais de casting directeur et tout. Je rencontre les gens parce que je veux établir avec eux une relation personnelle suffisamment forte pour avoir envie de les filmer. Et tout ce que je fais, tout ce que je déploie, aussi bien les costumes, les décors, la lumière, tout ce que l'on veut, n'est fait que pour les servir. D'essayer d'être toujours à la meilleure place pour servir le jeu des acteurs. Parce que c'est ça la récompense d'un cinéaste, c'est quand soudain quelque chose se passe à l'image de si exceptionnel et de si inattendu par rapport à ce que vous pouviez espérer, que ce cadeau-là ne peut venir que de l'interprétation. Ce
qui... On les retrouve, Gérard Mandia d'ailleurs, de film en film, enfin pour beaucoup d'entre eux, je pense à Patrick Mille.
Oui, Marc Barbet, Luc Thuillier, Florence Thomassin.
Pater.
Jacques Pater, bien sûr. Ouais. Bah oui, parce que moi je veux filmer des gens que j'aime.
Ouais.
Je veux filmer des gens avec qui j'ai une relation. Et quand on a fait Les Vivants et les Morts, j'ai passé plus de deux mois et demi à les choisir vraiment un par un et à choisir même les tout petits rôles, même les rôles qui n'étaient pas des rôles parlants, par exemple. Je les ai tous vus, choisis, discutés avec eux et su très précisément pourquoi je prenais celui-là et pas un autre.
Oui. D'ailleurs, on parlait de Patrick Mille qui vous a suivi et qu'on retrouve aussi alors dans un autre genre que vous avez abordé, le genre historique. Je pense à la Forteresse assiégée. Forteresse assiégée qui est un film qui raconte, au moment de la guerre de 70, les suites de la Commune, et notamment ce qui s'est passé à Beach, et où vous avez une réflexion sur la guerre,
oui,
sur l'art de la guerre, enfin, ou le drame de la guerre.
Quand j'ai tourné La Voix de son maître avec Nicolas Philibert, en réalité, nous avions un projet à long terme, de faire, toujours dans la perspective qu'avait énoncé Michel Foucault, des films sur les discours dominants. Donc il y avait le discours patronal, ensuite il y avait le discours stratégique, que j'ai commencé à tourner avec un autre ami, il s'appelait Andrew Orr, et puis La Voix de son maître ayant été censurée, c'est devenu très compliqué, j'ai été obligé d'y renoncer. Bon, La Forteresse assiégée m'a donné l'occasion d'y revenir et surtout d'essayer de chercher une forme télévisuelle inédite. Quelque chose qui soit finalement une sorte de roman historique et de réflexion sur l'histoire. Et Patrick Mille, dans l'histoire, jouait à la fois des scènes de fiction où il était un soldat pendant la guerre de 70, mais où il devenait, la scène d'après, une sorte d'enquêteur qui interrogeait les chercheurs, et les mêmes chercheurs étaient à leur tour remplacés par des personnages qui pouvaient être les personnages historiques. Donc d'inventer une forme. C'est-à-dire que j'avais un modèle en tête qui est le modèle des biographies de Stefan Zweig. Parce que dans les biographies de Stefan Zweig, ce qui est extraordinaire, c'est sa façon de raconter l'histoire de l'homme ou de la femme dont il veut parler de la vie, d'y mêler ses propres réflexions sur l'œuvre et sur la personne, et de les attester par un certain nombre d'éléments qui viennent de l'extérieur, de documents, etc. C'était un modèle parfait pour ça, et justement, là aussi, c'était d'inventer une forme nouvelle, de se poser la question de comment raconter l'histoire et comment problématiser ce discours stratégique, c'est-à-dire comment penser la guerre à partir d'un petit élément, le siège de la forteresse de Beach pendant la guerre franco-prussienne en 70, et puis de là, réfléchir sur l'usage, par exemple, de l'arme atomique.
Le film historique, vous l'avez relativement peu traité, mais dans votre dernier film, celui qui est sorti en 2018, Mélancolie ouvrière, vous y revenez pour raconter l'histoire d'une femme.
L'histoire d'une femme exceptionnelle, Lucie Beau.
Syndicaliste.
Lucie Beau, il y avait au départ un essai de Michel Perrault, Mélancolie ouvrière, qui racontait l'enquête qu'avait fait Michel Perrault, historienne, sur cette femme qui, en 1905 et 1906, mène deux grandes grèves dans les filatures à Vizy-les-Voiron, près de Grenoble. Et Michel Perrault était parti d'un texte laissé par Lucie Beau en 1908. Et c'est vrai que Lucie Beau je partage entièrement l'analyse de Michel Perrault qui dit que c'était une héroïne. Parce que le texte qu'elle a laissé est un texte exceptionnel. D'abord, c'est un texte d'une femme, ce qui à l'époque n'était pas si courant. C'était une femme syndicaliste, ce qui était encore moins courant. Et c'est un texte où elle dit « je », où elle assume ce qu'elle est, où elle raconte réellement ce qu'elle a fait, comment se sont passées les grèves. Bien sûr, elle passe au nous quand elle passe aux grèves, mais elle dit « je ». Et tout ça était essentiel. Et surtout, ce qui me touchait beaucoup, enfin, ce qui était à la fois... C'est pour ça qu'il y a une certaine mélancolie. Pourquoi se battait Lucie Beau, qui est interprétée par Virginie Ledoyen, pour la question des salaires? Cette question se pose encore quotidiennement en France et dans le monde. Sur la question du temps de travail, puisqu'elle travaillait, et les enfants travaillaient 14 heures par jour à cette époque-là, elle se bat pour ramener ça à 8 heures. Elle ne le verra pas de son vivant, puisque ce sera en 1919. Elle se bat contre quoi? Elle se bat contre ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement sexuel, mais qui était des viols, parce que dans les filatures, il y avait une immense population féminine de 200 à 500 ouvrières et un ou deux hommes qui surveillaient tout ça et qui avaient réellement droit de vie ou de mort, puisqu'il n'y avait aucune défense des ouvriers. Donc il suffisait que le type dise « si t'es pas d'accord, bah tu prends la porte ». Et évidemment, il faisait ce qu'il voulait avec les apprentis, avec les ouvrières. Donc les viols étaient...
Monnaie courante.
Oui, banal, quoi. Terrible. C'est terrible de dire ça, mais c'était ça. Et c'était le même cas. On m'a raconté exactement la même histoire sur les faïenceries à Limoges. Et puis, il y a dans l'histoire aussi beaucoup d'ouvrières qui viennent d'Italie, les Italiennes. Bah, la question de l'immigration, elle est là aussi posée devant nous. Bon, tout ça faisait que ce recul-là, ce recul de l'histoire nous permettait une lecture critique de la situation contemporaine. Mmh. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup dans cette histoire, en plus.
C'est ce qui a fonctionné dans le film, puisqu'il a eu un très bon accueil et beaucoup de succès quand il a été diffusé.
Ça a été, cerise sur le gâteau, ça a été le record d'audience des fictions d'Arte pour l'année.
Espérons que le temps des cerises reviendra encore pour vos prochains films à l'avenir. Gérard Modilla, merci beaucoup. Demain, nous entamerons notre quatrième rendez-vous pour parler des mots, de l'écriture, encore et toujours.
Il y aura à dire.
Réalisation Angélique Thibault, prise de son Thomas Robin, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À Voix Nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.